Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu.
J'ai maintenant le privilège de vous présenter l'animateur de ce premier groupe. Et elle va présenter le panéliste. C'est mon confrère, ma collègue, ma copine, Mona Valentin, directrice opération de l'Alliance de la fonction publique du Canada, qui représente des centaines de milliers de travailleurs dans le gouvernement fédéral, des agences fédérales et ainsi que d'autres secteurs publics et privés. Avant d'accepter ce poste, Mona a travaillé pendant plus de 20 ans pour le syndicat canadien de la fonction publique, à plusieurs postes, plus récemment directrice de développement syndical. C'est Mona qui a modelé la conférence d'il y a 10 ans et elle a modelé aussi notre campagne pour les eaux publiques et elle a initié notre effort de créer des alliances et des coalitions avec d'autres groupes, y compris le Conseil des Canadiens. Conférée consoeur, je vous présente Mona Valentine.
Je suis très heureuse d'être ici de nouveau parmi les membres du plus grand syndicat du Canada. Thanks very much. It's great to be back.
Alors, merci beaucoup. Je suis très content d'être ici parmi tant de membres de l'OCFP. Mon syndicat, foyer, si vous voulez, mon berceau, le plus grand syndicat du Canada. Je suis contente aussi de voir tant de membres du Conseil des Canadiens, dont je suis membre du conseil d'administration. Alors, bienvenue à ce premier panel sur les eaux au Canada. Ce n'est pas votre seule occasion de participer activement. Nous disposons d'une heure pour cette séance et on va avoir une conversation d'idées. Ils ne sont pas très à l'aise, regardez-les, mais ils ont l'air un peu gênés. Alors, vous savez comment ça marche, un groupe comme ça. Tout le monde veut aller au micro. On n'a jamais le temps pour la période des questions. Et les premiers arrivés au micro sont les seuls à poser des questions. On va changer les choses cette fois-ci. Je vous invite, au fur et à mesure, où vous avez déjà des questions déjà préparées. Alors, au fur et à mesure, faites signe, cherchez une fiche, écrivez votre question. Alors, donc, rédigez votre texte, votre question sur des fiches. Je vais essayer de les organiser par thème. On va avoir une organisation thématique. Et on va donc utiliser vos questions pour interviewer les panélistes. Alors, donc, sans plus de préambule, je vous présente les panélistes. Ralph Pentland, qui est là, qui est le président du Conseil canadien des enjeux des eaux. Et entre 1978 et 1991, Ralph a servi comme directeur planification des eaux du gouvernement fédéral du Canada. Et il a beaucoup d'expérience dans les enjeux, les questions aquatiques entre le Canada et les États-Unis. Il a aussi agi à titre d'expert conseil partout dans le monde. En 2008, il a rédigé la loi canadien sur la préservation des eaux qui est à l'étude présentement. Merci, Ralph, d'être venu ce matin.
Alors, je vais donc commencer avec vous, Ralph, en vous demandant de parler il y a 10 ans, lorsque le premier sommet aux aguets a eu lieu en septembre 1999. Plusieurs participants avaient parlé de l'importance de l'autorité, que les gouvernements utilisent leur pouvoir pour protéger les ressources d'eau. On craignait à l'époque qu'ils ne faisaient pas assez au niveau du gouvernement, plus particulièrement le gouvernement fédéral, pour freiner l'exportation de l'eau. On craignait qu'on ne fasse pas assez pour arrêter la pollution de nos cours d'eau, la déviation des cours d'eau. Et je me demandais donc si vous pouviez nous dire ce que les gouvernements ont fait depuis 10 ans ou n'ont pas fait pour nous donner une idée du paysage législatif au Canada. Oui, merci Mona. J'espère que vous m'entendez bien. Je dirai quelques mots au sujet de la loi, oui, mais D'abord, j'aimerais établir le contexte de la gouvernance. Personnellement, pour le moment, je pense que depuis 20 ans, tout notre système de gouvernance de l'eau est en débandade et les enjeux de l'eau sont de plus en plus pressants. Et les causes profondes sont que le gouvernement national n'a pas pu s'adapter à l'ère de l'information et à la mondialisation aussi vite que le secteur privé. Ainsi donc, quand on pense tout le temps à l'économie, on oublie le bien public. En 87, j'ai travaillé sur une politique fédérale de l'eau, une bonne politique à l'époque, je crois. Elle est encore citée en exemple, mais on n'a pas pu la mettre en application à cause de restrictions financières graves. Le gouvernement fédéral a plutôt adopté un plan vert, vous vous souviendrez peut-être, en 1990. On promettait beaucoup de nouvelles infusions de fonds et une toute nouvelle philosophie. Les fonds sont arrivés temporairement, puis se sont estompés, comme souvent. Et la philosophie à l'époque, c'était que le gouvernement devrait être plus habilitant. Bon, la théorie doit encore être mise à l'épreuve. Les Canadiens avaient moins accès au savoir à cause des pressions internationales qui voulaient qu'on élimine les obstacles à la compétition internationale. Et enfin, plusieurs des possibilités de participation à l'international qui étaient possibles avant sont disparues. À cause de toutes ces tensions émanant de l'extérieur du pays et même du système d'eau, la capacité des autorités responsables de la gestion de l'eau a été réduite ou en tout cas était très incertaine et les parties étaient moins capables de travailler ensemble. Les relations clés n'étaient plus efficaces. Il y avait quelques lueurs d'espoir au niveau local. De toute évidence, il y a beaucoup de confusion. Nous sommes dans l'impasse alors qu'il nous faudrait pourtant avoir un bon sens d'orientation à l'échelle nationale. Dans les circonstances, il n'est pas étonnant qu'on demande l'adoption d'une nouvelle politique de l'eau. J'en viens à la réglementation maintenant. Sur la question des règles et de l'application, il y a eu de grands changements depuis la première vague environnementaliste. D'abord, il y a eu une démarche minimaliste au début des années 90 et dernièrement, l'adoption de règlements soi-disant intelligents. Avec la démarche minimaliste, on voulait réduire l'intervention gouvernementale dans les activités du secteur privé. On a mis en place des exigences procédurales très compliquées qui rendaient quasiment l'adoption de nouveaux règlements impossible et on dépendait de plus en plus des intérêts économiques pour s'auto-réglementer. Dans la pratique, la réglementation intelligente, plusieurs des caractéristiques de la démarche minimaliste se retrouvaient, étaient encore. On voulait promouvoir les intérêts d'entités et le gouvernement fédéral a défini la réglementation intelligente comme donnant le même statut à la concurrence internationale et aux biens communs. Nous voulions renforcer la capacité de la réglementation, la rendre plus efficace, mais je pense qu'on est allé bien trop loin en abandonnant virtuellement toute précaution et toute application gouvernementale des règlements. L'analyse économique surestime toujours le coût de la réglementation parce qu'on ne peut pas anticiper tout d'avance et sous-estime les avantages. Un bon exemple, je pourrais remonter dans le temps un peu, c'était un peu l'interdiction des détergents à base de phosphate dans les années 90. Cette décision réglementaire, sans cette décision, nous ne l'aurions pas fait, mais nous l'avons fait. L'industrie a donc présenté plusieurs puissants arguments expliquant que ce serait dommageable pour l'industrie et l'économie. Mais une fois que l'interdiction était en place, l'innovation a vu le jour et on a tiré d'énormes avantages pour la société et sans pour autant toucher au bilan de l'industrie. Donc, cette décision avait été intelligente, même du point de vue économique. Si l'on ignore les intérêts spéciaux et certaines études, on voit que les bons règlements n'ont pas d'incidence négative au niveau macroéconomique et les entreprises sensibles à l'environnement dépassent généralement en rendement les autres. Un aspect inquiétant de notre régime réglementaire affaibli c'est les répercussions sur la santé de l'homme. Par exemple, d'après le Centre de l'intégrité publique à Washington, on a fait faire une étude sur les répercussions publiques des matières dangereuses dans 28 États au domaine de préoccupation aux États-Unis. On a dit que plusieurs versions d'un rapport préparé pour le Congrès américain a été étudiée par plusieurs experts indépendants et en juillet 2007, juste avant sa diffusion publique, le Centre des substances toxiques a dit qu'il devait être révisé de nouveau. Aussi, d'après le Centre de l'intégrité publique, dans plusieurs des domaines étudiés, la recherche a constaté des taux de fécondité affaiblis, un taux de mortalité accru, de même que les cancers. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour cela. Bien sûr, ce pourrait être la pollution atmosphérique, les styles de vie. Mais dans une démocratie robuste, on s'attendrait à ce que tous les résultats scientifiques soient rendus publics. On ne pourra jamais vraiment comprendre les causes et effets totalement, mais certaines choses sont certaines. Les effets sur l'environnement et les plus graves effets peuvent nuire à notre adaptation aux autres tensions et éliminer certaines espèces. Dans les communautés humaines, il peut y avoir des problèmes de reproduction et on peut porter atteinte aussi au système immunitaire. Il peut y avoir de profondes répercussions pour la population dans son ensemble. Contrairement au déficit budgétaire, ces autres déficits ne peuvent être renfloués. C'est pourquoi il faut avoir des processus ouverts. Et je terminerai avec une idée qui vient d'un petit livre que je vous recommande, qui a été écrit par Marilyn Fair, qui s'intitule Denying the Source, the Crisis of the First Nations Water Rights. Marilyn suggère que le moment est venu de nous demander si nous sommes prêts à nous concerter et à exiger que l'eau soit traitée comme un élément sacré du monde qui requiert de grands soins étant donné sa singularité. Et ensuite, il suggère que le fait que le gouvernement ait le devoir de maintenir cette ressource pour le bien de la population. Ceci pourrait devenir un concept unifiant pour tous les Canadiens. Merci beaucoup, Ralph.
Cette balado-diffusion a été enregistrée à la conférence sur l'eau Sommet Bleu. Le Syndicat canadien de la fonction publique et le Conseil des Canadiens ont organisé le sommet pour souligner le 10e anniversaire de la coalition aux aguets. Il a eu lieu à Ottawa du 27 au 29 novembre 2009.